20h du soir.
Soyez les bienvenus sur HDR, c'est ton libre jusqu'à 21h, ensemble, comme tous les lundis, tous les 15 jours, ensemble pour parler du monde qui nous entoure, le décrypter peut-être. Et ce soir, pendant une heure, deux invités qui sont à mes côtés, Chloé et Olivier, qui reviennent d'un long périple de 2 ans autour du monde. Souvenez-vous, il y a 2 ans donc, et quelques semaines, nous les recevions déjà dans ton libre pour parler de ce grand voyage sous le thème de l'écologie, mais éco. L'O-G-I-S, l'habitat à travers le monde, l'habitat durable. Donc on va en parler pendant une heure. Ils sont revenus il y a maintenant un peu plus d'un mois. Et évidemment, première étape indispensable, HDR, ton livre, pour faire ce débrief de ce long voyage. Eh bien, soyez les bienvenus. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis, évidemment, notre chroniqueur fidèle, Emmanuel, lui aussi, à nos côtés.
Et oui, revenu d'aucun voyage.
Mais tu nous fais toutes les semaines voyager à travers tes textes, donc c'est un grand voyageur, un voyageur des mots. Alors, pour débuter cette émission, Chloé, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous rappeler quel est ce voyage, le contexte ?
Alors le projet écologie, donc il est né en fait il y a déjà 3 ans, parce qu'on a mis 1 an à le préparer. Et donc le projet, c'était de partir pendant 2 ans à la rencontre de gens qui construisent de manière alternative, de manière alternative, des logements écologiques, donc des logements qu'on considère écologiques, c'est-à-dire qui ont un moindre coût et qui sont facilement reproductibles. Et donc ce voyage nous a mené à la rencontre d'architectes, d'ingénieurs, d'autoconstructeurs, mais aussi de militants, d'artistes et de citoyens engagés. Et donc la question de départ, c'était comment est-ce qu'on peut construire autrement pour préserver la planète et aussi dépenser moins d'argent pour moins dépendre aussi d'un système qui ne tourne plus rond.
Alors Olivier, pourquoi avoir choisi le thème de l'habitat ? Parce que les alternatives plus écologiques, plus humaines sont dans plein de domaines, et vous, c'est vraiment ce sujet précis qui vous a intéressé ?
Alors bonjour d'abord. Et alors on s'est intéressé à l'habitat pour plusieurs raisons, mais dans un premier temps, comme Chloé l'a dit, on est parti un peu d'un constat d'un système qui fait face à de multiples crises, à la fois écologiques, à la fois économiques. Et alors donc sur le point de vue écologique, on s'est rendu compte par nos recherches que l'habitat, au niveau mondial, l'habitat et la construction représentent 40% de... 40% de l'énergie que nous produisons au niveau mondial est engloutie par l'habitat. 30% des émissions de gaz à effet de serre viennent de l'habitat également. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que dans une grande partie du monde, dans les pays en développement, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à un habitat, ou alors y ont accès, mais c'est des habitats insalubres. Et puis, d'un autre côté, dans les pays riches, dans les pays du Nord généralement, on a accès à l'habitat, mais souvent on s'endette sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on se retrouve un peu coincé dans un système qu'on ne trouve pas forcément positif collectivement et même individuellement. Et donc on s'est demandé s'il y avait d'autres manières de faire, et on s'est dit qu'on allait aller voir en France, mais aussi dans d'autres pays, comment les gens font pour essayer de faire face à ce problème.
Alors Chloé, tu voulais compléter ?
Et en fait aussi, on est parti du constat que donc il y a énormément de films, de plus en plus de documentaires qui mettent en valeur des alternatives et des solutions positives, mais étonnamment, il y en a aucun qui est consacré au logement alternatif à notre connaissance, et alors qu'il y en a sur l'agriculture, sur l'éducation, et ou des films aussi qui font un état des lieux assez général, comme le film Demain. Qui a très bien marché. Et donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a un sujet, parce que tout le monde a besoin de se loger. Et donc, comment mettre en valeur des initiatives positives, c'était la question du sujet.
Alors, ce voyage, et justement, tu as introduit cette dimension de votre projet, Chloé, c'est que vous êtes partie avec une caméra pour réaliser des films de toutes ces rencontres. Donc, j'imagine que là, vous avez des centaines, je ne sais pas même s'il faut dire des milliers, peut-être pas des centaines d'heures de rencontres.
Oui, donc on revient voilà, avec des disques durs plein d'images. Donc c'est une centaine d'heures de rush, en fait. Mmh. Parce qu'on a quand même été raisonnable sur 2 ans de tournage. En fait, on a vraiment ciblé les personnes qu'on voulait rencontrer, les projets qui nous intéressaient en particulier. Et donc l'objectif, oui, c'est de réaliser un documentaire d'une heure et demie à partir de ça, donc qui va se consacrer à 5 projets phares, en fait, qu'on a retenus. Et puis aussi, à plus court terme, on va réaliser une exposition itinérante pour montrer au grand public, peut-être de manière différente aussi, les alternatives qu'on a découvertes, avec des photos, avec des textes issus des articles qu'on a écrits sur notre site pendant tout le projet, et puis des extraits vidéo.
Très bien, alors c'est vrai que Demain a eu un succès formidable, donc on reparlera tout à l'heure de votre projet de film, mais l'année prochaine, peut-être que ça sera vous qui aurez l'occasion de faire connaître largement le retour sur ce grand périple. Alors Emmanuel, toi qui baigne dans l'architecture au quotidien, j'imagine que la question de l'habitat alternatif, ça doit faire partie des questions que tu te poses ou que tu poses à tes étudiants.
Oui, il y a 2 dimensions. En fait, ils n'ont pas parlé d'architecture, ils ont parlé d'architectes qu'ils avaient rencontrés. En France, la question de l'architecture ou de l'éco-responsabilité vis-à-vis du bâtiment est très très malvenue. Enfin, il faut quand même en être conscient. Il y a des logements qui sont montés dans des opérations participatives. Ça n'a rien à voir, quoi. On n'est pas du tout, on est dans un ensemble, on va dire, réglementaire et économique extrêmement construit, où il faut rentrer dans des cases. Et grosso modo, si on ne rentre pas dans les cases, on ne construit pas. Voilà. Donc il y a un décalage immense avec les pays dont ils reparleront peut-être, mais qu'ils ont évoqué tout à l'heure. La France ne fonctionne pas du tout comme ça. J'ai juste une toute petite parenthèse. Je suis en train de lire ça, mais dans les années 60, il y a un architecte que peut-être certains connaissent, mais qui s'appelait Fernand Pouillon, qui s'est retrouvé en prison parce qu'il avait monté une société qui faisait la promotion immobilière. Et en fait, le gros enjeu était qu'il construisait mieux et moins cher que les autres. Et il s'est retrouvé avec des lobbies, notamment des grosses entreprises, et d'ailleurs de l'État, qui contraient absolument le système, quoi, qui n'en voulaient pas.
Alors, c'est peut-être pas demain qu'on verra justement des solutions alternatives ici en France, Olivier.
Alors oui, la situation, elle est très différente selon les pays, et notamment selon les pays riches et selon les pays pauvres. Et évidemment, dans les pays riches, souvent la réglementation est beaucoup plus forte. Mais nous, on a essayé aussi d'aller voir des personnes dans les pays riches, notamment aux États-Unis et en France aussi un petit peu, des gens qui essaient de changer ces législations. Alors malheureusement, ça vient pas des grosses industries ni de l'État, de ceux qui ont le plus d'argent, parce qu'ils n'ont pas forcément justement intérêt à ce que les règles changent, parce qu'ils gagnent de l'argent grâce à ça. Mais il y a des collectifs d'architectes, d'autoconstructeurs, de constructeurs en général, qui se montent dans certains pays et qui essaient de faire les tests, en fait, sur les matériaux. C'est ça qui coûte cher, de faire les tests pour après pouvoir prouver que ces bâtiments peuvent abriter du public, ne vont pas s'enflammer, ne vont pas tomber à la première secousse. Et donc, aux États-Unis, on est allé rencontrer quelqu'un qui s'appelle David Eisenberg et une autre personne qui s'appelle Martin Hammer et donc qui sont architectes et qui ont justement fait évoluer la législation en Arizona et en Californie sur la construction en bottes de paille. Et en France aussi, il y a des avancées, notamment avec le réseau de la construction française de paille qui, en 2011... après un gros travail bénévole, souvent, on réussit à faire entrer dans la codification de la construction en France une règle qui permet maintenant aux constructeurs professionnels qui souhaitent construire en bottes de paille de se faire assurer. Alors après, il faut quand même trouver des assureurs qui vont accepter, mais c'est possible légalement. Et donc, même si c'est compliqué, il y a quand même des avancées. Et nous, c'est ça qu'on veut montrer, surtout avec ce projet. Il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans le monde de la construction et dans le monde en général, mais il y a aussi des avancées et il faut les souligner parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en montrant des solutions qui vont séduire des personnes.
Alors Olivier, tu viens d'évoquer les États-Unis. Chloé, j'aimerais que tu nous cites, que tu nous rappelles un peu le circuit que vous avez parcouru à la rencontre de ces alternatives.
Alors donc c'était un voyage plutôt d'abord d'ouest en est et après du nord au sud. Donc on est parti de France, de Louviers, en stop jusqu'en Italie. Après on est allé en Grèce, en Turquie, en Iran, en Inde, au Népal, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines. Donc ça c'était plutôt la première année et c'était donc le parcours ouest-est. Et de là, après, on est arrivé au Québec et on a descendu vers le sud. Donc, on est parti du Canada pour après rejoindre les États-Unis, donc la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique. Et ensuite, on est allé en Amérique centrale où on a surtout filmé des projets au Nicaragua et pour finir en Colombie.
Ce qui est aussi intéressant dans ce périple, vous l'avez dit, il a duré 2 ans. Et justement, il a duré 2 ans parce que vous avez pris le temps de vous arrêter dans les pays. C'était pas, allez, on arrive, on filme une jolie maison alternative en paille ou en je ne sais quoi, on y reviendra. Mais vous avez pris le temps justement pour comprendre ce qui se passait sur place.
Oui, bah, tout l'enjeu, en fait, c'était de rencontrer les gens, de comprendre le contexte, de pouvoir faire connaissance aussi, parce que venir avec une caméra, c'est pas rien. Et puis, passer du temps aussi à filmer les techniques de construction. Donc, souvent, c'était sur des chantiers. Donc, c'est intéressant de passer du temps pour voir différentes étapes de construction. Et puis, aussi s'adapter à l'emploi du temps de chacun pour mener des interviews. On a rencontré des gens très sollicités, donc il fallait être là au bon moment. Et la chance qu'on a eue, en fait, c'est ce luxe du temps qui nous a permis de nous adapter en permanence et de tirer parti des conseils qu'on nous donnait, parce que c'est un grand réseau, en fait. Et donc, petit à petit, les constructeurs nous disaient « Ah, mais il faut absolument que vous alliez voir cet architecte en Colombie », et c'est ce qu'on a fait, et c'était, par exemple, une très très belle rencontre. Et si on avait tout cadré au départ, on n'aurait pas eu cette chance-là. Donc, très souvent, on s'est dit qu'on avait bien fait de laisser la route libre.
Alors Olivier, justement, toutes ces personnes que vous avez rencontrées, l'accueil était plutôt très ouvert. Vous avez senti une envie des gens de partager leur expérience ?
Alors oui, on s'est rendu compte, alors peut-être la première chose, alors ça c'est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que peut-être en France on est très formel et que, en tout cas nous, l'expérience qu'on a eue à l'étranger, c'est que les personnes, justement des personnes qui peuvent être très sollicitées, en tout cas dans ce secteur, était vraiment très ouverte pour nous recevoir, même si c'était des architectes ou des ingénieurs très connus. Après, justement, ce qui a fait peut-être que ces gens nous recevaient volontiers, c'est que c'est des personnes qui ont besoin, en fait, de communiquer tout ce qu'ils font. Parce que, justement, il y a des solutions qui existent dans la construction écologique, mais qui manquent de moyens financiers et de moyens aussi médiatiques. Donc là, c'est des personnes qui ont une idée et qui sont vraiment dans la recherche du partage, parce que souvent, ces personnes ne le font pas, en fait, que pour elles-mêmes. Alors, elles le font aussi certaines fois pour elles-mêmes, pour peut-être faire des économies dans le cadre de leur habitat, mais c'est aussi dans le but d'essayer de faire un peu bouger les lignes de la société et d'essayer de collectivement trouver des solutions pour loger tout le monde et puis pour réduire notre empreinte écologique globale.
Alors, je comprends bien, donc voilà tout ce processus qui vous a porté. Avant de rentrer dans le détail, on va prendre le temps de faire des pauses, de découvrir peut-être certains interlocuteurs que vous avez eus. J'aimerais savoir si, justement, de partir 2 ans comme ça, est-ce qu'à un moment, on a le mal du pays quand même, on se dit « oh là là, c'est long » ou finalement, ce temps, Chloé, vous avez pris le luxe de le vivre, mais est-ce que parfois, il vous paraissait long quand vous regardiez au loin vers la France ?
Alors oui et non, mais c'est en tout cas c'est une très belle expérience, je pense, de se lancer comme on a eu la possibilité de le faire hors de sa zone de confort, comme on dit, et de partir avec un sac à dos. On apprend énormément sur soi d'abord. On apprend des autres cultures, on fait beaucoup de belles rencontres, mais aussi on se recentre beaucoup sur soi en apprenant quels sont ses besoins et quels repères nous manquent le plus. Mais oui, évidemment, il y a des moments où ça a été plus facile que d'autres et il y a quelques habitudes qui viennent à manquer. Mais en fait, on est tellement aussi bien reçus par toutes ces personnes qui nous ont ouvert leurs portes, que ce soit les constructeurs qu'on est allés filmer, mais aussi des gens qui nous ont hébergés en couchsurfing, par exemple, un réseau d'hospitalité qu'on a beaucoup utilisé. On s'est très souvent retrouvés dans des familles adoptives, en fait, qui nous ont donné un peu de baume au cœur quand des fois les copains venaient à manquer ou un bon repas français. Mais voilà, il y a eu tous ces moments, en fait, qui ont fait que ça redonne de l'énergie. Et on a eu très souvent de la chance, en fait, par des petites circonstances qui fait qu'il y avait des petits coups de pouce. Et qui arrivait toujours à un moment où il y avait justement peut-être un hébergement qui n'était pas super, et bah, la personne suivante qui nous hébergeait nous mettait à disposition une super chambre. Donc ça a toujours compensé.
Très bien. Alors je vous propose qu'on écoute un premier morceau de musique. C'est un petit clin d'œil justement à ce périple que vous avez vécu, Olivier et Chloé.
Y'a pas de bubon, j'te parle aux maisons et nous coupons bonbons. Pas d'autre option, travailler dur, se saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les crocs, fini les coups, car le pire des mots, c'est ce foutu loup. Le temps me fait défaut, l'argent de faux, bon. J'emprunte pour quatre générations.
Bonjour monsieur cochon, on le fait pour vous aider. Il vous faut de la monnaie, je peux vous en procurer 10% d'intérêt, je sais c'est élevé. Mais qui d'autre, Wallbang, prêterait à un cochonnet.
Hey, le v'là endetté, j'ai trouvé la parade, je le tiens par le porte-monnaie.
L'heure de ma vengeance va bientôt sonner.
Jamais vous ne serez plus moi. Caravane, caravane, pas de mobilo. La rita, c'est notre droit. Léger, c'est un choix chez nous. Le loup fait pas sa loi. Autonomie, autoconsuit, écologie, respect de choix de vie.
Fini la porcherie, apologie à petit.
Et si demain on se casse, on laissera pas la terre.
Casse mon pas cette peur là, même au sens, est-ce que j'ai le choix? Je vais passer voir les frérots et leur en toucher deux mots.
Salut. Et la misère. Et le loup galère. La vie d'un qui me tue, la femme qui me plaît. À toi quel qu'il soit, bienvenue chez toi mon frère.
Je suis sceptique, c'est pas de la vie.
Bref, rien de bon, en termes d'isolation.
Chaque hiver, retour à la glacière.
Et moi, mais où est-ce qu'on fait caca?
Je voulais pas connaître ce choix.
Jamais vous ne serez plus moi. Caravane, caravane, pas de mobilo.
La rita, c'est notre droit.
Léger, c'est notre choix chez nous.
Le loup ne fait pas sa loi.
Autonomie, autoconsuit,
écologie, respect de choix de vie.
Fini la porcherie, apologie à petit.
Et si demain on se casse, on laissera pas la tasse.
Ah, enfoiré de cochon, ils ont trouvé la solution. Vite, une autre astuce. Messieurs les cochons, que faites-vous là? Vous avez un permis? Dites-moi de quel droit vous avez construit ça? La loi ne dit rien sur votre cas, alors dégagez-moi là!
Le loup, encore une fois toi, SB
fait-on le tomber? Là, ton système grégaire nous rend bien amer. Laisse donc faire les rois du camping vert. On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi et mes porcelets, on veut pas être assisté. Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé. Allez, on n'est pas des vaches, allez.
On est les cochons, on est les cochons. On a construit nos maisons
derrière costume. Méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats bleus, on en vient par tabou.
On est les cochons, on est les cochons. On est les cochons, on a construit nos maisons
derrière costume. Méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats bleus, on en vient par tabou.
Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous.
S'appelle Pang et le morceau Habitat Plume. Alors Olivier, dis-moi pourquoi avoir choisi ce morceau?
Alors on a choisi ce morceau parce que c'est un groupe de musique belge qui essaie de s'attaquer, bon pas de s'attaquer mais de déconstruire les préjugés sur les gens qui sont écolos en général, et là en l'occurrence la construction écologique, parce que justement un des gros problèmes de la construction écologique c'est qu'elle souffre de nombreux préjugés, et là justement on parle du grand méchant loup, des trois petits cochons, et ça fait directement référence justement au conte des trois petits cochons dans lequel et ben finalement on fait passer les maisons en paille pour des maisons qui sont des maisons qui vont s'envoler au premier coup de vent, des maisons qui vont brûler, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Et à contrario, on fait passer les maisons en briques ou en parpaing pour des maisons solides, résistantes, qui vont durer des années et qui vont nous protéger. Et donc, justement, nous aussi, dans notre film, dans notre exposition, l'objet, ça va être de déconstruire tous ces préjugés pour montrer que les habitats écologiques peuvent être des habitats modernes, confortables, et puis qui répondent bien aux attentes d'aujourd'hui, donc avec une meilleure isolation, avec une durabilité dans le temps, voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce morceau.
Très bien, donc Pang, Habitat Plume. Alors, on va commencer à nous aussi faire des pauses dans ce voyage que vous avez parcouru. Alors, donc tu le disais Chloé, il y a cinq initiatives phares que vous allez décliner dans votre film. Alors, on peut peut-être revenir sur quelques-unes de ces initiatives, mais on ne veut pas déflorer dès maintenant le film qui sortira à peu près dans un an. Tu disais que vous avez rencontré plein d'acteurs différents, notamment aussi des artistes. Alors, est-ce qu'il y a par exemple un artiste qui te vient en tête? Parce que moi, ça m'a interpellé de me dire justement quel regard un artiste peut apporter sur la question de l'habitat écologique.
Oui, alors il y a une rencontre qui a été vraiment très belle et qui s'est fait vraiment par hasard avec une plasticienne qui s'appelle Swazik Gezenek, qu'on a rencontrée en Inde, à Bombay. Et en fait, c'est une Française qui est installée en Inde depuis des années. Et son travail qu'on a découvert, c'était de détourner en fait des slogans publicitaires sur la construction écologique, mais là du coup du côté plutôt greenwashing. Et donc elle détournait en fait des slogans de grands promoteurs immobiliers qui promettent des constructions qui préservent l'environnement, mais tout en ayant des grandes façades vitrées impossibles à chauffer et des grandes barres d'acier. Et donc elle a fait toute une installation en proposant aux visiteurs d'être un potentiel acheteur. Et en prenant au pied de la lettre ces slogans un peu absurdes, elle a démontré en fait qu'il y avait aussi maintenant toute une manipulation du concept écologique. Et donc voilà, on a filmé son expo et on a fait une interview de cette dame qu'on a vraiment rencontrée par hasard.
Alors justement, c'était ma question, parce qu'en Inde, vous êtes restée assez longtemps, quasiment 4 mois. Et donc, c'est le fruit du hasard, c'est quelqu'un d'autre qui vous a dit qu'il faut absolument rencontrer cette femme.
Oui, c'est une personne qui nous hébergeait, en fait, une Française qu'on a rencontrée aussi par hasard, qui nous a hébergés pendant 2 semaines, le temps qu'on fasse nos visas à New Delhi, qui a en fait été invitée à l'Alliance française où cette femme, cette plasticienne, exposait. Et en voyant l'expo, on s'est dit non, il ne faut vraiment pas qu'on passe à côté. Et donc, on lui a proposé une interview.
D'accord. Alors, Olivier, donc voilà, une artiste en Inde. Je te laisse choisir un pays. Alors, on va prendre dans la première partie, première année, deuxième année du voyage. Et on aurait dû prévoir une urne avec les différents pays pour piocher au hasard, Olivier.
Mais alors, je vais prendre un pays qui est à côté de l'Inde et le pays dans lequel on est allé juste après, et en fait le Népal. Et donc au Népal, on a pris contact avec une ONG népalaise et néo-zélandaise dont l'objectif premier était de s'occuper de l'éducation. Donc le Népal, c'est un pays vraiment très pauvre. Je pense que c'est vraiment l'un des plus pauvres de la planète, avec des difficultés pour faire de l'agriculture parce que c'est des grandes montagnes, avec tellement pauvre qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de tracteurs, par exemple. Et donc l'éducation est vraiment un problème majeur, d'autant plus que justement avec les difficultés qu'ils ont, par exemple les femmes et même les jeunes filles se lèvent à 4h du mat pour aller chercher le bois, pour ensuite chauffer la maison, faire la nourriture. Donc voilà, c'est vraiment un problème majeur, l'éducation. Et en fait là, ce qui était intéressant, c'est que l'ONG qui construisait une école s'est demandé comment est-ce qu'on va la construire et comment on va la construire pour qu'elle puisse évidemment accueillir des élèves dans des bonnes conditions, mais qu'il nous reste ensuite assez d'argent pour acheter du matériel et payer des professeurs. Et donc là-bas aussi, le béton par exemple et le ciment est très cher parce qu'il est difficile à acheminer, et en plus il n'est pas forcément très adapté au climat, parce qu'il fait finalement le Népal, on a tous en tête l'image d'un pays froid parce que c'est très montagneux, mais en fait c'est quand même un pays tropical, donc quand on est même à 1000 mètres ou 1500 mètres, il y a des bananiers. Donc voilà, avoir des constructions en béton qui font four, c'est pas forcément adapté. Et donc cette ONG avait entendu parler d'un concept de maison en sac de terre. Alors, il s'est renseigné un peu sur comment ça peut être une maison en sac de terre. Et donc, en fait, comme son nom l'indique, c'est une construction très simple. Donc, on prend des sacs, alors des grands sacs de riz ou des grands sacs de ciment qui ont été usagés et qui ne servent plus, et on les remplit de terre. On les remplit de terre, et puis on fait une première couche. Ensuite, on pose du fil de fer barbelé sur la première couche, et puis on remet une couche de sac de terre, et ainsi de suite, et on monte comme ça. Et une fois que les murs sont... Alors oui, on fait bien attention à les compacter, justement, ça va être important. Et ensuite, une fois que les murs sont montés, on va mettre... Alors eux mettaient des fers à béton dedans, surtout aux extrémités ou aux intersections. Mais on peut aussi mettre des bouts de bois ou du bambou selon ce qu'on a à disposition. Et donc l'avantage en fait de cette construction, c'est qu'on utilise des matériaux locaux. Donc, alors on recycle des sacs et puis de la terre. Donc ça, c'est possible de le faire vraiment presque partout sur la planète. Et ensuite, c'est un coût très faible, puisqu'on utilise justement des matériaux locaux qu'on ne transforme pas. Et c'est une construction qui va aussi assez vite. Donc, alors on était quand même pas mal là sur cette construction, et on n'est pas resté jusqu'au bout, mais cette construction, ça, peut-être qu'en un mois, c'était fini, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ils ont monté cette construction. Et puis, on y était en mars. Et on est parti. Et puis, il y a eu le tremblement de terre d'avril 2015. Et donc là, on s'est demandé qu'est-ce qu'il en est de cette école et puis des quelques autres constructions de ce type dont on avait connaissance, qui existaient au Népal. Et on a appris qu'elles ont toutes résisté. Et en fait, ces maisons, justement, résistent, par exemple, bien mieux que le béton, parce que leur base, c'est de la terre, mais de la terre qui est dans un contenant. Et donc, c'est assez flexible, sans pour autant que ça se désagrège. Et donc, en fait, alors il y a beaucoup de gens déjà qui disaient que ce type de construction résistait bien aux tremblements de terre, était assez simple, parce que là-bas, en fait, il y a aussi beaucoup de constructions en terre crue, en adobe, en briques de terre crue, ou en pierre. Mais le problème, c'est que ces constructions peuvent être aussi résistantes au séisme, mais quand on a une bonne connaissance de la construction, et tout le monde n'a pas cette connaissance au Népal, et souvent pas les plus pauvres. Et donc là, c'était vraiment une manière de construire écologique, à faible coût, pour tout le monde, et en plus qui résiste aux tremblements de terre.
Alors, est-ce que Chloé, justement, finalement, dans un certain nombre de modes de construction que vous avez pu découvrir, il n'y a pas tout simplement un bon sens qui revient à des pratiques qui étaient peut-être traditionnelles et qui ont été oubliées par une occidentalisation du mode de construire ?
Oui, dans un sens, c'est aussi vraiment quelque chose dont on avait